Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h30 à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes également très nombreux à nous écouter en podcast. N'hésitez pas, le premier débat sur le foot français est déjà en ligne, toujours ce matin, avec Cyril Linette, Christophe Cessieux, Olivier Giraud, Fred Weiss, Joël Embiid. Doit-il des excuses à la France? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. À l'occasion du J-100, Emmanuel Macron s'invite dans la punchline des GG à 10h30 à propos de la cérémonie d'ouverture. Oui, encore, je sais, mais pour la première fois, le chef de l'État a dévoilé un plan A, un plan B, un plan C. La communication autour de cette cérémonie devient-elle illisible? Et puis le PSG et l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe, principale victime, le championnat qui va être sérieusement chamboulé, le calendrier, en tout cas la Ligue 1 est-elle faussée? Ce sera notre débat à 11h avec un invité, c'est le président de Reims. Mais tout de suite, cette citation de Sarah Pattison qui a dit un jour, un pardon sincère n'attend pas d'excuses.
RMC, le bras de fer GG.
Joel Embiid from Yaoundé, Cameroun.
Joel nous a informé qu'il avait changé d'avis, c'est son droit. Nous n'avons jamais été à l'initiative de la possibilité pour Joel de jouer en France.
Salut, ça joue à Embiid.
C'est lui qui s'est manifesté il y a quelques années. Il n'a cessé de nous dire qu'il voulait jouer pour nous. La Team France continuera sans lui, comme elle le faisait déjà auparavant.
Ah, l'histoire, Joel Embiid, il a menti au président de la République. Cette semaine, RMC s'est procuré le courrier adressé par Joël Embiid à Emmanuel Macron, daté du 28 octobre 2021, une lettre dans laquelle le joueur star de Philadelphie clame son amour pour la France. « Je ne souhaite jouer pour aucune autre équipe nationale. Ce serait pour moi un honneur, un immense honneur de rejoindre cette équipe de France de basket pour disputer les JO », lance-t-il au président de la République. Des mots forts qui lui ont permis d'obtenir la nationalité française quelques mois plus tard, en juillet 2022. Octobre 2023, patatras. La décision tombe, les mouchoirs sont de sortie. Joël Embiid choisit Team USC. Joël Embiid doit-il des excuses à la France? Dans le coin gauche, la team oui. Il est tout seul, mais dans le studio, pas tout seul, vous allez voir. C'est Cyril Linette.
Oui.
Soutenu par 64% ouais. Des auditeurs pour l'instant. 64% ah. Pense que oui, il doit des excuses. Dans le coin droit, la team non. Christophe Cessieux, Olivier Giraud, Fred Weiss, soutenu donc par 36%. Avant de débattre, messieurs, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Edgar Grolot. Bonjour Edgar.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
Comment expliquer ce revirement de Joël Embiid?
D'abord, il y a cette fameuse lettre en octobre 2021 dans laquelle Joël Embiid est catégorique. Il fait une promesse au président. « Mon choix est arrêté », écrit-il. « Il veut jouer pour les Bleus ». Plus que cette promesse, il explique à Emmanuel Macron son attachement à la France. Il lui raconte ses visites en Ile-de-France chez ses tantes Suzanne et Lucie, chez son cousin Pierre. Il lui dit qu'il a envie d'acheter une résidence à Paris, que la France fait partie de lui. Bref, il semble convaincu, tout simplement. En tout cas, il a convaincu tout le monde, puisqu'il obtient la nationalité française, tu l'as dit, en juillet 2022. Mais seulement deux mois plus tard, il obtient aussi le passeport américain et le manager de la Team USA, Grant Hill, commence à essayer de convaincre Joël Embiid de jouer avec les États-Unis. S'ensuit une longue période de doute, on ne sait pas pour qui il va jouer. Alors face à cette situation, l'été suivant, la Fédération française de basket fixe un ultimatum. Embiid doit faire son choix avant le mois d'octobre 2023 et son choix, on le connaît, finalement, il décide de représenter les États-Unis. Alors, il a expliqué cette décision. « Je veux que mon garçon sache que j'ai joué mes premiers Jeux Olympiques pour lui. » Une façon, donc, de rendre hommage à son fils né aux États-Unis.
Merci beaucoup, Edgar, pour toutes ces précisions. Joël Embiid doit-il des excuses à la France? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Le camp du non, vous êtes largement derrière. Va falloir vous refaire. Fred Weiss, pourquoi non?
Alors, non, parce que, alors, il faut recontextualiser quand même. Joël Embiid est un joueur extraordinaire de basket. C'est un joueur qui a été MVP de NBA l'année dernière et qui, s'il était venu à l'équipe de France.
Pardon, ça excuse tout ça?
Non, non, mais justement, je recontextualise. Ça n'a aucun rapport. Laisse-moi finir.
Très bien.
Alors, c'est toi maintenant qui commence à couper les gens.
Bien sûr.
Donc, pour recontextualiser, voilà pourquoi la France a été à même de lui donner un passeport, parce que effectivement, sportivement, on y gagnait énormément. Alors moi, je réponds non, tout simplement parce que, pour moi, on est dans un sport business, où maintenant, on choisit sa sélection de la même manière qu'on choisit son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, qui est le plus offrant, qui a le plus de chances de gagner, j'y vais, et c'est à peu près accepté, malheureusement, partout.
Pardon, je te recoupe. C'est en 2021 qu'il fait sa demande. En 2021, il sait très bien que Team USA va gagner aux Jeux Olympiques. Ou en tout cas, il est quand même l'équipe la plus propice à gagner.
Alors, c'est plus compliqué d'avoir la naturalisation américaine plutôt que la France. C'est difficile d'avoir la nationalité américaine. Peut-être qu'il ne pensait pas que les Américains lui fileraient.
Alors, c'est surtout qu'en 2021, rappelle-toi quand même ce qui s'est passé, on est en finale contre Team USA et ça se passe à très peu de choses pour que la France ne gagne. Donc, la France est plutôt dans les sommets. Donc, moi, je considère que ce garçon est aussi bon basketteur que c'est un sale type. Je le déteste pour cette chose qu'il a fait. Je trouve qu'il a manqué de respect à la France, il a manqué de respect à toutes ces personnes qui demandent le passeport et qui ne l'ont pas. Et sous prétexte qu'on est un athlète de haut niveau, on a le droit à ça. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux. Mais je trouve que les excuses, j'en ai rien à faire des excuses de Joel Embiid. Parce que ça ne vaut rien, vu que sa parole ne vaut rien. Par contre, déchéance de nationalité, intellection territoire, tu ne vas pas jouer les Jeux Olympiques, tu viens avec Team USA et à l'aéroport, on dit t'as pas le droit de rentrer sur le territoire. Tu rentres chez toi, tu es Camerounais, tu es Américain, tu n'es pas Français, tu dégages et tu ne joues pas les Jeux Olympiques.
Et tu ne joues pas les Jeux Olympiques.
Voilà ce qu'il mérite.
Je rappelle évidemment.
Tu le raccompagnes à la frontière.
Mais moi, s'il faut, je le raccompagne. Je le raccompagne s'il faut.
La France ne peut pas enlever de passeport français, hormis pour des cas extrêmes.
Des cas de terrorisme.
Surtout des cas de terrorisme.
C'est un cas extrême. D'une part, et ensuite, il y a un précédent déjà en Turquie. Il y a déjà un précédent. Olcay Larkin, par exemple, a été démis de sa nationalité turque parce qu'il n'a pas respecté les accords. On lui a donné un passeport. Pourquoi? Pour qu'il vienne jouer au basket, parce qu'il n'a aucun autre intérêt pour la France que de venir jouer au basket et nous permettre d'avoir la médaille d'or. Il ne sert à rien. Il ment à notre président de la République en nous prenant pour des débiles et un pays sous-développé. Qu'il aille se faire voir et
la seule chose que tu peux faire, c'est crever les pneus du bus, mais sinon le reste,
s'il faut, je le ferai.
Ok, on a compris le coup de gueule de Fred Weiss. On redescend tranquillement en température. C'est un débat sans doute léger.
On pensait qu'on allait être allié avec Fred, mais pas du tout. En fait,
besoin de parler,
si
j'ai déjà gagné.
Se prend un allié terrible. Le mec, il arrive avec trois bombes atomiques sous le bras et il les balance direct.
Bon, le camp du non, on va retenter une fois parce que pour l'instant, je pense que t'es plus du côté de Cyril Linette. Pourquoi il ne doit pas.
Alors, il nous a enfumé, il nous a pris pour des imbéciles, on est d'accord. Il n'a montré aucun signe de respect vis-à-vis de la France et de son président. Mais bon, qu'est-ce qu'on croit? Mais on se prend pour qui exactement? On se prend pour qui? Évidemment qu'il a fait une lettre, je pense qu'il avait envie de jouer pour l'équipe de France, mais que on n'a pas su faire avec lui. Les Américains ont appris que les Français allaient lui proposer quelque chose et qu'ils lui mettaient un ultimatum. Oui, Jean-Pierre Sutta, président de la Fédé, a dit à Embiid maintenant. Tu nous dis si tu vas jouer.
Mais la raison, c'est qui joue à l'NBA? C'est juste un joueur de basket. On a besoin d'avoir un ultimatum pour préparer cette équipe de France, pour savoir qui sera là, pour te reconnaître un petit peu.
D'accord.
Évidemment, Christophe, okay. On a besoin d'un ultimatum. Et c'est bien que notre fédération soit forte pour une fois. Les respects pour ça.
Ça a été super forte sur le coup. Donc, elle lui a mis un ultimatum. Et à ce moment-là, le manager de l'équipe américaine, Grant Hill, est allé voir Embiid. Et il lui a parlé. Au lieu de lui fixer des ultimatums, il a dit, tu sais quoi, si tu viens avec nous,
tu vas gagner 100 millions de dollars.
Tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent. Regarde les stars qui seront avec toi. Ah non, bah c'est sûr que t'auras pas Hurtel, t'auras pas machin, mais t'auras toutes les plus grandes stars de NBA. Et l'autre, il a vu un énorme gâteau avec des bougies de tous les côtés, et il s'est dit, la France, c'est sans moi, mais bon, franchement, je préfère quand même... La mariée est quand même plus belle côté américain, non?
Non, mais Christophe, t'es en train de me dire quoi? Que tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'affection, tu ne respectes pas ta parole, toi?
Mais parce que moi, je suis français. Lui, il a rien de français.
Mais oui, mais... Pourquoi mais toi, qu'elle pense quoi, Tata Suzanne, là, actuellement?
Pourquoi on va lui proposer d'être français à jouer à l'Embiid?
Mais on lui a pas proposé, c'est lui qui a fait la démarche.
Et pourquoi on lui a donné alors?
Parce que
tous les petits Camerounais qui demandent la nationalité.
C'est là que je trouve ça scandaleux. Voilà. Mais donc t'es d'accord avec moi, c'est scandaleux ce qu'il a fait. C'est une honte pour tous ces Camerounais qui justement demandent la nationalité et qui l'obtiennent pas sous prétexte qu'ils ne sont pas des sportifs extraordinaires.
Avant de vous donner la parole, Olivier Giraud, Cyril Linette, je rappelle effectivement qu'en octobre 2023, Jean-Pierre Sutta, le président de la Fédération française de basket, a donc donner un ultimatum à Joel Embiid pour qu'il se décide enfin, car depuis pendant un an, il y a eu un flou total sur sa participation ou non avec les Bleus pour les Jeux Olympiques. Écoutez Jean-Pierre Sutta juste après la décision de Joel Embiid.
Oulé Lafarine, non, mais une grosse déception, ça c'est clair. Hein. C'est quand même le joueur qui a fait la démarche depuis très longtemps. Il nous a relancé, il a montré sa volonté de venir. Voilà. Donc après, on a facilité la démarche, c'est notre rôle, nous, la fédération. Donc derrière, s'il a fait le choix, on ne peut que respecter ce choix. Mais je suis déçu, surtout par rapport à l'énergie qu'on a passée. Quoi. Voilà. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Olivier Giraud, pourquoi non, il ne doit pas d'excuses.
Triple nationalité, c'est incroyable. Le mec est très très fort. Très très fort. Toi, je suis moins énervé que toi. C'est juste nous qui sommes idiots. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur les binationaux et puis la manière dont on donne la binationalité. C'est quelque chose de très important. Et c'est facile à décrypter. 2022, il obtient deux nationalités. Évidemment, il n'avait pas envie de faire les Jeux et il ne serait pas qualifié avec le Cameroun. Donc, il a envoyé une bouteille à la mer. Et le premier, c'est plus dur d'être américain. C'est vrai, plus dur d'être américain. Surtout, il a anticipé le fait que cette équipe-là, elle est la première Dream Team 2. Parce que là, tu regardes l'équipe, t'as l'impression de te retrouver en 92. Là, c'est que des mecs qui vont arrêter très bientôt et les plus grandes stars du basket qui vont être là. Mais je pense qu'à la base, il s'est dit, je serais peut-être pas invité à ça.
Mais oui.
Je serais peut-être pas invité à ça. Et il a fait la demande française pour faire ses Jeux. Évidemment, regardez, il y a les Jeux qui vont être à Paris, mais ils sont où les prochains Jeux ?
À Los Angeles.
À Los Angeles. Ils jouent où, Joël Embiid ?
C'est une question, c'est des questions-réponses, là, c'est ça ?
Mais oui, faut toujours répondre.
Non, mais il
vit aux États-Unis. Sa vie, elle est aux États-Unis. Toute la manne financière qu'il a vient des États-Unis. Et que le moment où les États-Unis lui ont dit
on va ça, prendre, on est d'accord.
Ben, il y est parti. Non, c'est important que je précise ça. C'est parce que c'est 2022. La vraie question qu'on doit se poser, et on pourra faire le parallèle sur toutes ces passages, lorsque tu es français et que tu changes de nationalité, parce qu'on peut se poser la question aussi sur la manière dont on fait au foot, où on forme à peu près toute l'Afrique, et l'Afrique du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, parce qu'en fait, ils sont tous en équipe de France jeune, et à un moment, à 21 ans, ils peuvent choisir leur nationalité. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, avec un cas différent de celui du foot, mais celui du basket qui vient de nous arriver, c'est demain, est-ce qu'on le processus pour prendre la nationalité française, quelles que soient les modalités internationales du sport ? Parce que c'est là qu'on s'entrechoque. Parce que selon les sports, tu ne peux pas prendre la nationalité comme ça. Ou handball, il n'aurait pas pu. C'est pas possible.
Donc, c'est pas possible. Rappelle-moi l'équipe du Qatar.
L'équipe du Qatar, il n'y avait pas beaucoup de Qataris d'origine quand même. Hein.
Oui, mais il faut que tu n'aies pas joué pour ta sélection pendant.
Il n'a pas joué pour sa sélection non plus, Joël Embiid.
Oui, mais.
En fait, il avait le droit d'aller.
Non, mais je te le fais en général. C'est-à-dire que selon les fédérations internationales, il y a des process ouais. totalement.
J'ai l'impression
différents.
Qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins des process. C'est de plus en plus facile de tenir une.
Juste pour finir. La
nationalité sportive.
Tu sais, les fédérations sont sous délégation. Du ministère des Sports, donc de l'État. Avec ce cas-là, il y a une vraie question à se poser sur le process pour devenir français dans une équipe sportive. C'est-à-dire que l'éthique, c'est-à-dire que tu représentes ton pays, est-ce qu'on peut, juste parce qu'on veut le meilleur joueur, comme la Pologne a fait avec le Cubain, meilleur joueur du monde, qui est devenu polonais alors qu'il parle même pas polonais, est-ce que
ce... Lorenzo Brown avec l'Espagne, ils sont champions d'Europe.
Est-ce que ceci, on le fait encore
dans tout,
donc
les...
ça,
dans tout,
ouais. Il a posé une vraie problématique et une vraie réflexion sur comment on sélectionne des joueurs pour la France.
Ok, Cyril, pourquoi il doit des excuses?
Bah, parce qu'on n'écrit pas au président de la République, dès que l'occasion m'est donnée, je rends visite à mes tantes Suzanne et Lucie, domiciliées à Courtry et Courcouronne, ainsi qu'à mon cousin Germain Pierre qui réside à Évry. Je garde un bon souvenir de mes vacances estivales passées en France. Même si dans la lettre, on comprenait déjà qu'il se fichait un peu de la. Parce que, quand même, il avait rajouté qu'il avait passé un mois de vacances à Paris et que ça lui avait plu et que du coup, il se sentait français. Non, je pense qu'effectivement, il a été très opportuniste. Il a tenté le coup avec la France et puis après, quand il a vu qu'il pouvait avoir l'intérêt américaine et que l'équipe américaine serait supérieure à l'équipe de France et grande favorite des JO de 2024, il n'a pas hésité. Je suis d'accord avec Christophe. Ils ont sans doute été malins. Après, il y a un vrai sujet, effectivement, sur les binationalités. Et tous ces sujets-là, il y a un peu une dérive. Hein. Fred le disait, il a pu choisir sa sélection comme il a pu choisir son club. Moi, je pense que ce qui fait la beauté du sport en général, c'est qu'on choisit son club, mais on ne choisit pas sa sélection dans l'absolu. C'est ce qui rend vraiment les voilà. Haaland, il a Manchester City. Mais malheureusement pour lui, il est norvégien et bon là, ça sera difficile pour lui de faire une grande carrière avec son équipe nationale. On va pas naturaliser Haaland espagnol ou anglais. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu une dérive ces dernières années. Moi, je pense notamment à en France, c'est assez simple, c'est le droit du sol. Donc effectivement, à partir du moment où on est en France, on peut avoir potentiellement sa nationalité d'origine et la nationalité française à 18 ans. C'est le droit du sol. Dans certains pays où on est sur le droit du sang, comme en Allemagne, par exemple, ou en Suisse, ça a toujours été quasiment impossible d'être naturalisé, sauf quand les Allemands ou les Suisses ont compris que, finalement, en modifiant la règle pour certains sportifs, ils allaient améliorer leur équipe nationale de foot. La Suisse, c'est le meilleur exemple. C'est quand même le pays le plus difficile pour obtenir une nationalité, sauf quand on est footballeur ou là, on peut devenir Suisse très facilement. Donc, c'est pas la dérive de Joël Embiid, c'est une dérive un peu globale de pas mal de pays qui twistent effectivement leur loi au bénéfice de leur équipe nationale.
Et c'est ça la problématique. Je trouve que ça met en exergue justement cette dérive parce que ils surfent sur un truc et ils profitent de ça en disant OK, j'ai à la carte, je choisis la nationalité que je veux. Ça me paraît absolument
protégeant au maximum, effectivement. Alors après, les binationaux nés en France qui choisissent leur sélection africaine en fonction effectivement de l'origine de leurs parents, ils le font souvent parce qu'ils se disent je suis un peu juste pour le niveau de l'équipe de France. Et là, pour le coup, ils ont la nationalité de leur pays d'origine et la nationalité française à 18 ans. C'est la règle. Il n'y a pas, à mon avis, de dévoiement de la loi dans ce que...
Je suis d'accord, on ne peut pas comparer ces deux cas
en France. Plus différent. En rugby, là, par exemple, le dernier qui a obtenu une sélection d'équipe de France, il est australien d'origine samoane, il parle à moitié français, mais c'est un colosse, il est aussi grand que Fred, sauf qu'il court le 100 mètres trois fois plus vite que lui. Et il vient de faire son apparition en équipe de France.
Le sport on le voit, je l'ai vu ça. Le sport se perdra à faire ça. C'est très important, à mon avis, de séparer les clubs qui ont des sélections mondiales à effectuer des équipes nationales qui font effectivement avec ce qu'elles ont. C'est ce qui rend la magie aussi des équipes nationales. Hein.
Kevin nous appelle au 32-16. Il veut réagir à notre débat. Bonjour, Kevin.
Salut, JT. Salut, Gangel.
Bonjour.
Un habitué,
bonjour.
Kevin, de cette émission. Joël Embiid doit-il des excuses à la France?
Non. Alors, en fait, pour moi, rien que le fait que Joël Embiid déjà joue avec une sélection nationale, c'est quelque chose d'incongru. Pour moi, Joël Embiid est clairement ce qu'on peut appeler un citoyen du monde. Et moi, je faisais la comparaison avec un joueur qu'on a longtemps réclamé en équipe de France et puis qu'on a eu qu'une seule fois finalement, qui était Joachim Noah, qui se sentait finalement autant français que camerounais, qu'américain. Et Joël Embiid, il est là-dedans. Donc finalement, lui, le côté patriotique, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est juste le côté basket. Et là où je lui en veux, finalement, c'est pas en tant que Français, c'est en tant que basketteur. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est ajouter une ligne de plus à son palmarès, une ligne de champion olympique. Et je trouve qu'être champion olympique avec cette équipe des États-Unis, finalement, c'est un peu petit slip. Alors que finalement, aider la France à être championne olympique à Paris, battre les Américains, battre une grosse équipe américaine, là, sur sa ligne de palmarès à la fin de sa carrière, ça aurait eu vachement plus de gueule. Donc finalement, voilà, je l'en veux d'avoir été petit joueur sur ce coup-là. Par contre, voilà, le fait qu'il choisisse les États-Unis plus que la France, je pense qu'on a du mal à raisonner comme ça parce que nous, voilà, on se sent purement français. Lui, je pense que le concept même de nationalité, pour lui, c'est quelque chose qui passe en dessous finalement l'intérêt sportif et l'intérêt basket.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais qu'il choisisse les États-Unis, personne n'est contre, mais qu'il fasse cette démarche en disant non, mais moi, c'est bon, j'ai choisi, c'est la France. Oui,
mais surtout quand lui a rien demandé.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement australien ait présenté des excuses au gouvernement français lorsqu'il a choisi finalement d'annuler la commande de 12 sous-marins qui ont finalement été fabriqués par les États-Unis? Ça nous a coûté 34 milliards de dollars et les Australiens n'ont pas du tout dit oh, excusez-moi monsieur le président, c'est du business. Et un joueur de basket international, c'est du business comme un sous-marin.
Ça devrait pas être du business, c'est bien ça pour
Olivier, vraiment 10 secondes.
Il y a juste une toute petite chose. Ces dernières années, les relations entre le continent africain, vous n'êtes pas sans savoir, et notre pays sont compliquées. Ça veut dire qu'il y a aussi...
Tu ne vas pas faire 10 secondes là.
Non, je m'arrête tout de suite. Il faut aussi, à l'intérieur de ces familles, comprendre à un moment des choix. Je pense qu'il y a des choses aussi un peu plus complexes que ça, mais évidemment, il est opportuniste et il a été très bon.
Bon, en tout cas, on embrasse les tantes Suzanne et Lucie, évidemment.
USA.
Jean-Luc Croix, c'est la fin de la qualification. Tout de suite, Jean-Luc Croix, le Grand Prix de Chine. Donne-nous la grille de départ.
Et oui, j'y sais, c'est terminé, effectivement. Alors, il avait remporté la sprint race hier en partant quatrième sur la grille. Vous avez déjà compris la suite. C'est sa cinquième pole position de la saison, la sixième consécutive, la 37e de sa carrière. Il s'appelle, bravo, Max Verstappen, l'homme le plus rapide. 1 minute 33 secondes, 660 millièmes. Il aura à ses côtés l'autre Red Bull piloté par Sergio Perez. Et derrière, très bel exploit de Fernando Alonso avec l'Aston, troisième temps. Donc, c'est sur la deuxième ligne avec Lando Norris, la McLaren. À ses côtés. Piastri et Leclerc seront sur la troisième ligne. On aura ensuite Sainz et Russell, Hülkenberg et Bottas. Je rappelle que du côté des Français, Ocon a signé le 13e temps, Gasly le 15e. Et la grosse déception, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui s'est classé deuxième de la sprint race et qui partira 18e de ce Grand Prix.
Merci beaucoup Jean-Luc, on te retrouve demain à 9h pour le Grand Prix. Ce sera à suivre évidemment sur RMC. Nous serons là dans les grandes gueules du sport pour parler donc de ce Grand Prix avec Max Verstappen, vous l'avez bien compris, qui a signé une nouvelle pole position. On revient dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. La communication autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est-elle illisible? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC.
Déchéance de nationalité. Ah, t'es champion québécois. Tu vas pas jouer les Jeux Olympiques.
9h30, midi.
Tu viens avec Tim USC et à l'aéroport, on dit. Eh mec, t'as pas le droit de montrer sur le territoire. C'est toi. Tu dégages.
Les grandes gueules du sport.
Et tu ne joues pas les Jeux Olympiques.
Jean-Christophe Drouet.
Voilà, Fred Bay est un petit peu énervé sur le dossier Joël Embiid. C'était il y a quelques instants. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast.
Un extrémiste.
10h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Donc avec Fred Weiss, Cyril Linette, Olivier Giraud, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, le zapping des GG, notamment une information venue d'Espagne. Zidane au Bayern Munich, finalement démenti par les médias allemands. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. Ce sera le on s'en fout pas. 11h45, les GG contre-attaque. Vous le savez, mes GG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat soumis au vote. Un petit tour dans les rangs pour savoir ce que vous avez dans la besace, comme on dit. Cyril Linette.
Ah, quand on passe en premier, c'est pas bon signe, mais.
Pourquoi? Si, quel honneur!
C'est que le débat n'est pas. Non, mais c'est un sujet simple. Il y a beaucoup de bons sujets ce matin, mais c'est un sujet simple par rapport à ce qu'est bien jouer au foot. Et j'aurais bien voulu entendre mes trois compères. Sur ce sujet, est-ce que garer le bus devant le Manchester, le bus de Manchester City pendant deux heures comme l'a fait le Real Madrid est digne d'un club qui a gagné 14 Ligues des Champions? Est-ce que c'est complètement acceptable? Est-ce que c'est simplement du pragmatisme? On se dit il y a que le résultat qui compte, ou est-ce que même c'est une manière de bien jouer au foot que de jouer comme ça? Je trouve que c'est un débat intéressant.
Mais c'est un très bon débat.
Ce match était pour certains passionnant, pour d'autres très ennuyeux, pour certains parce que le Real était ennuyeux, pour d'autres parce que City était ennuyeux. Donc il y a pas mal de sujets, je trouve.
Ok, très bon débat proposé par Cyril Linette.
Tu sais quoi? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission spéciale avec que des contre-attaques. Et on aurait des bons débats.
Ok, et la place de l'animateur dans
C'est-à-dire que toi tu arrives le samedi matin dans tes chaussons et tu attends de voir ce qui se passe. Quoi.
Tu sous-entends que nos débats sont meilleurs.
Ils ne sous-entendent même pas. Hein.
Tu as vu la balle perdue là?
Ok. Wow. Ouais, très bien, merci beaucoup Chris pour cette intervention. Tu passeras peut-être ton tour pour les juger contre-attaque. Fred Weiss.
Moi j'avais envie de parler de basket et de diffusion télé. On a des vraies problématiques. En début de saison, la Ligue nationale de basket a signé un contrat avec l'équipe et avec Squeak, qui est une plateforme dédiée au basket. Et il se trouve qu'il y a des gros soucis financiers du côté de Squeak qui va pousser la Ligue à ne pas diffuser, à faire un écran noir sur la plateforme Squeak. Alors il restera le match sur l'équipe, mais il y aura un écran noir sur Squeak ce week-end. Et je me pose la question, est-ce que le basket est condamné ou est maudit sur la télé?
Ok, est-ce que le basket fait squeak quelque part?
Tout va bien dans le basket aujourd'hui là.
Non mais réagissez pas aux débats des autres, ok? Olivier Giraud, tu proposes quoi?
Écoute, sur les jeux, on va en parler tout à l'heure, mais polémique sur polémique, jusqu'à en avoir des polémiques les plus ridicules que j'ai jamais vues. Se dire que reprise par la politique, et là je dis. Ils décrédibilisent un petit peu leur discours. Ça veut dire que quand tu vas sur une polémique sur les tenues de cérémonie,
c'est tellement moche.
C'est que là, tu n'as rien compris. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que les tenues de cérémonie ont toujours été moches. Et nous, entre athlètes, on se payait la tête. Une fois, c'était les filles qui avaient des tenues horribles. Deux fois, c'était les mecs. Et en fait, c'était un truc qui nous amusait. Tout simplement, la tenue, tu la portes vite fait.
Ouais, c'est ça. T'es déguisé, quoi.
Mais donc, là, ça ne passe pas.
Donc là, ça passe pas.
J'ai bien envie de voter pour toi.
Ok, Christophe, vas-y, rapidement.
Dibou, je t'aime. Dibou, je t'adore. Le gardien de l'Argentine, évidemment. Ennemi public numéro un du peuple français. Celui qui s'est moqué de nous, pire que Embiid, pendant la Coupe du Monde. Rappelez-vous de ce qu'il a fait. Eh bien, il a refait la même chose contre Lille. Et il nous a fait perdre une nouvelle fois. Eh bien, moi, ce mec, je l'adore. Il me régale parce qu'il rentre dans la tête de ses adversaires et que c'est un fantastique gardien. Et je vais clamer mon amour pour Dibou. Oui, Dibou, je t'aime. Dibou, je t'adore.
Ok, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport, apporter quelques pilules comme d'habitude pour Christophe Cessieux. La scène, pas la scène, à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture continue de faire parler. L'organisation de cette cérémonie inédite, vous le savez, sur le fleuve parisien, est toujours dans le flou en raison de la menace terroriste. Lundi matin, le président de la République, Emmanuel Macron, était l'invité exceptionnel de BFM TV et RMC. Et pour la première fois, le chef de l'État a détaillé les autres scénarios envisagés. C'est la punchline. BGG, Emmanuel Macron.
RMC, la punchline GG.
Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli. Il y a des plans B et même
plan
des plans C.
Oui. Mmh.
Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On fera une analyse en temps réel. Et donc, on a une cérémonie, pour tout vous dire, hein, qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Une interview avec deux GG du sport, on les embrasse, bravo à elles, Marion Bartoli et David Douillet. Alors quelques heures plus tard, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a répondu au chef de l'État.
Non, vraiment, moi je travaille sur un plan A, je connais que le plan A. Vous savez, je pense qu'il faut avoir confiance dans le travail qui est fait. Donc moi je préfère envoyer comme message que nous sommes prêts, bien sûr. Et pour que le message qu'on envoie à ceux qui voudraient nous faire du mal soit qu'ils sont vraiment pas ni les plus forts, ceux qui pourraient empêcher cette fête de la fraternité que beaucoup, beaucoup attendent aujourd'hui.
La communication autour de cette cérémonie est-elle illisible ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Cyril Linette.
Ah oui,
Cyril Linette.
Même dans le reportage, ça n'a aucun sens.
Oui. Olivier Giraud.
C'est difficile hein, de se prononcer quand on entend d'un côté, quand on entend de l'autre. Donc il y a du oui, il y a du non. Mais,
okay,
mais attends, je vais donner le côté c'est non. C'est non. Mais
c'est plutôt non. Ok.
Oui, je vais être plus court que okay. Mon ami.
Cyril, je sais que tu as envie de faire ce débat.
Bah oui, parce que c'est illisible d'abord pour le président de la République lui-même, parce qu'on entend très bien dans l'interview quand il parle d'un plan B au Trocadéro et d'un plan C au Stade de France, et c'est dans la même phrase que lorsqu'il parle d'une cérémonie. Et un peu plus tard, les services de l'Élysée reviennent en disant « Non, non, il ne voulait pas du tout parler d'une cérémonie au Stade de France, il voulait dire « On irait au Stade de France », on sait que le stade est pris la veille et le lendemain par du rugby à 7, « On irait au Stade de France s'il n'y a pas de cérémonie, juste pour déclarer officiellement les JO verts ». Donc déjà, le président de la République est contredit par ses propres services. Après, il y a Anne Hidalgo qui dit les terroristes sont méchants, on ne laissera pas passer les méchants et moi je travaille sur un plan A. Donc on comprend que la mairie de Paris est écartée hein, par l'État français, par l'Élysée de l'organisation de cette cérémonie. Donc là, il y a vraiment, c'est assez clair. Ensuite, il y a d'autres éléments. On entend très peu finalement Tony Estanguet et je pense que c'est un peu le sujet. On comprend que le comité d'organisation n'ait pas accès aux données confidentielles de sécurité.
Même s'il a déclaré cette semaine qu'il travaillait surtout sur le plan A.
Oui, il est un peu plus aligné, on va dire, avec la mairie de Paris, mais on comprend qu'il n'est pas complètement dans le jeu. Ça revient toujours à la même chose. D'abord, pourquoi cette cérémonie d'ouverture phagocyte-t-elle 80% de l'intérêt autour des Jeux Olympiques ? C'est absolument incompréhensible pour moi. Ça va durer 3 heures et après, il y a 15 jours, plus 15 jours de compétition. Et deux, tout ça est encore une fois beaucoup trop politique. Les Jeux sont pris en otage. On voit bien que chacun règle ses comptes avec les uns et les autres, que le président veut montrer que c'est lui qui décide. Et qu'encore une fois, je pense que la parole olympique devrait, dans la majeure partie du temps, être porté, être incarné par le président des JO. C'est comme ça que ça s'est fait dans l'histoire, dans les autres pays. Et qu'en France, on entend quand même assez peu Tony Estanguet si on compare au de la République ou à la maire de
sur la sécurité, tu vois, l'attentat à Atlanta, ça n'a pas été pris en charge par les gens du comité d'organisation. L'attentat en 72, là, ça dépasse le cadre des Jeux Olympiques.
Il faudrait décider.
On est dans la sécurité de notre pays. Évidemment, il y a le cadre des Jeux, mais tu sais que lors de la cérémonie d'ouverture, ils vont installer un périmètre autour de la scène, mais que le danger, il sera peut-être mais plus derrière
que la décision.
Là, là où tu seras vraiment sur le territoire Christophe, français et la, pas seulement sur le
que
territoire
que la décision échappe évidemment au Cojo. Que le Cojo ne soit pas dans la boucle, même jusqu'au dernier moment de
tout. Non, mais il doit être dans la boucle.
Mais qu'il ne soit pas forcément informé de tout le contexte. Là, on parle de communication. Cette communication, quand même, à plusieurs têtes, qui consiste à ce que le président de la République donne régulièrement, fasse régulièrement un point, tout en contredisant lui-même, enfin, tout en étant lui-même contredit par ses propres services, mettre de côté la maire de Paris, qui semble être un peu dans la stratosphère, avec un président du COJO qui compte un peu les points. Voilà, en termes de communication, c'est quand même, pardon, mais c'est quand
mais
même.
Mais bon, moi, je vais pas reprocher à Macron de, pour une fois, d'avoir été clair sur ce cas-là. Tu vois, parce que tout le monde disait non, il n'y a pas de plan B, on reste là-dessus. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait des plans de rechange qui avaient été étudiés. Et là, au moins,
il
mérite d'être
complètement
clair.
Parce que quand il dit on va le plan C, c'est le Stade de France.
Oui, c'est le centre.
Derrière, c'est évidemment. Le service
communique pour dire que le Stade de France est déplacé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est.
Selon la gravité de la menace, tu iras à tel endroit ou tel endroit. S'il y a un attentat la veille dans Paris, évidemment qu'il n'y aura pas de truc sur la Seine, il n'y aura pas de Trocadéro et que tu iras dans le Stade de France juste pour annoncer le début des jeux.
Christophe, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit il y a une menace moyenne, donc soit c'est un petit peu dangereux, soit c'est très dangereux. Donc pour moi, ça serait beaucoup plus clair de dire il y a cette solution A, c'est comme ça. On va sur la Seine. Il y a cette solution B, il y a un risque, il y a une menace, il y a un danger, et on fait ça. Mais pourquoi faire un peu de nuance ? En fait, on ne sait pas où on va. Mais concrètement,
parce que tu peux pas lancer des invitations aux terroristes finalement.
Non, mais évidemment.
Disant,
mais dire
si c'est juste un mec qui vient poignarder, on ira.
Oui, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Mais si, c'est en gros sa réponse, c'est ça.
Tu peux pas leur dire ça.
Réponse A, il y a pas de menace. Réponse B, il y a une menace moyenne. Réponse C, mais non. S'il y a une menace, il y a une menace. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une décision. Qu'on l'annonce pas. Tandis qu'il y a un plan A et un plan B. Et c'est tout.
Il y aura des menaces.
Oui,
il y aura des
menaces. Donc on passe directement au plan B et on est plus sur la scène.
Les semaines qui vont précéder les Jeux Olympiques, il y a beaucoup trop d'intérêt à ce que les Jeux déraillent pour qu'il se passe
évidemment.
Rien. Il y a certains États anciennement amis, suivez mon regard, qui ont tout intérêt à ce que ça parte en sucette. Il y a toutes les organisations terroristes qui reprennent du poil de la bête ces derniers temps, qui ont tout intérêt à ce que ça parte en sucette. Et même si tu fais péter une poubelle une semaine avant le début des Jeux, ça va être un truc de dingue. Donc,
les amis, faut couper la télé des fois, parce que
on n'écoute que la radio, nous.
Ouais, faut vraiment la couper. Déjà, il y a une chose, c'est on va pas comparer le discours de Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, et le discours du président de la République. On est quand même tous d'accord qu'ils ont pas le même rôle, et qu'à un moment tu dis, il devrait dire. Non, c'est le président de la République. Ça veut dire que au moment où tu touches la sécurité, non, ça, toi, tu sauras jamais.
Non, mais j'ai pas dit dire ce qu'ils vont faire. Ils devraient dire, il y a un plan A, un plan B. Pourquoi parler d'un plan C? C'est-à-dire qu'en gros, il y a de la menace qui est très menaçante, quoi. Et d'autres, non.
Non, mais à un moment, faut faire attention. Automatiquement, même s'il y a des contradictions, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, justement pour la protection de la population.
Mais c'est exactement ce que je viens de dire.
Oui, donc il va pas te dire exactement.
Mais je ne demande pas à un moment de dire exactement. Mais qu'il envisage un plan B, un plan C, un plan D. Ça, c'est ça qui me choque. C'est un plan A, un plan B. Je n'ai pas à vous le dire, et c'est logique qu'on ne le sache pas, mais par contre, qu'il n'y ait qu'un plan A et un plan B. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une petite menace et une grosse menace. Ce n'est pas possible. À partir du moment où il y a une menace, tu vas plus sur la scène.
On en parle énormément aujourd'hui, parce que la manière de... ça aurait été il y a 4, 8 ans, on n'aurait pas discuté de ces problèmes de sécurité de la même manière. Je vous le dis très clairement. C'est-à-dire
mais ça, c'est évident.
Regarde, je te le fais. À Londres, tout le monde a oublié que juste avant, il y a eu un attentat dans le métro. Une bombe qui a explosé.
C'est vrai.
Est-ce qu'on a eu cette manière overreacted, comme diraient les Anglais, de surjouer alors qu'il y a vraiment une bombe qui a explosé? On se posait même la question, vraiment, mais de manière très fine.
Mais le contexte géopolitique n'est pas le même, Olivier. Tu peux pas comparer. Le contexte géopolitique actuel, il est quand même hyper tendu.
Mais hyper tendu parce que la communication qui est faite autour du complexe tendu.
C'est pas que la communication. C'est factuel.
Je te rappelle que, en 2012, le contexte, il était hyper tendu. Hyper tendu.
On n'était pas en guerre avec
qui que ce soit. De quel attentat tu
juste
parles
avant. Se dire que
le gros attentat de Londres, c'est en 2005. C'est
exactement au moment où ils obtiennent les jeux.
Voilà.
Donc on se posait la question.
Mais c'est pas au moment où ils organisent, Olivier.
Le problème, c'est que
c'est 7 ans avant.
Oui, c'est 7 ans avant. Et là, on se pose la question, s'il y a déjà des attentats, est-ce qu'on ne donne pas l'organisation à quelqu'un d'autre? Et pendant tout le long, Évidemment, si par exemple ça avait été là, il y aurait eu la même chose 7 ans avant un attentat en France, on serait posé la question tout le long, si il y allait avoir des attentats et dans le contexte actuel, ça aurait pris une dimension incroyable.
On a eu des attentats terribles 9 ans avant.
Ce qui se passe, c'est qu'avant tous les Jeux Olympiques, c'est toujours la même manière, toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on parlait de la sécurité au Brésil, tout le monde a oublié. C'est-à-dire au milieu des favelas, tout le monde disait mais si vous allez vous faire agresser, ça va être une catastrophe. Les favelas sont au milieu de la ville de Rio. On a construit à Barra au milieu des favelas également. Et au final, il s'est passé quoi?
Non mais
il y a eu un nettoyage massif par la police et par l'armée des favelas. C'est un peu différent quand même.
Non, je suis pas d'accord.
On parle de la communication. La communication devrait être portée par le comité d'organisation et par la maire de Paris. Et le président de la République, entièrement d'accord avec Fred, devrait simplement dire bien sûr qu'on va organiser la cérémonie d'ouverture comme on le souhaite. Mais si évidemment ça n'est pas possible ou c'est trop risqué, on fera autrement. Je peux pas vous en dire plus.
Exactement.
Okay. Sans rentrer dans les détails.
Je reprends la main. Nous reparlerons de ce sujet un petit peu plus tard. Toutes les dernières informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Un peu plus léger, on s'en fout pas, et notamment Zidane au Bayern Munich. C'est pas fait, point d'interrogation. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Cyril Linette, Fred Weiss, Olivier Giraud à partir de 11h. Le championnat, la Ligue 1 est-elle faussée? On va parler de calendrier chamboulé en raison de nos deux clubs qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe avec le président de Reims qui sera notre invité. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. La première information, les médias allemands qui démentent l'info Zidane au Bayern Munich. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Écoute, je m'en fous pas, mais j'ai pas grand chose à dire. Pour l'instant, j'attends de voir ce qui se dit. Mais j'aurais peut-être un truc à dire.
Très bien. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Sky Sport et Bild affirment que Zinedine Zidane n'est pas proche de signer au Bayern Munich, contrairement à ce qui a été rapporté hier par El Mundo Deportivo, média catalan. Les deux médias allemands s'accordent pour dire que l'entraîneur français n'est pas sur une shortlist du Bayern Munich, qui était occupé jusqu'à présent d'un seul nom. C'était faire revenir Julian Nagelsmann, mais avec la prolongation de cet entraîneur au poste de sélectionneur allemand, qui a été officialisé hier, eh bien le club bavarois serait désormais prêt à écouter d'autres candidatures. Cyril Linette.
Non, mais Zizou, il faut qu'il s'y remette. C'est vrai qu'il est très exigeant. Il veut beaucoup de conditions très favorables pour reprendre, ce qui est normal. Hein, c'est lié à son standing. Mais l'équipe de France, il l'aura pas tout de suite. A priori, au moins pas avant 2026. Le Real, il l'aura pas tout de suite puisque Carlo Ancelotti va continuer l'année prochaine. Donc, s'il a une opportunité, le Bayern, ça vaut quand même la peine.
Ok, il faut qu'il y aille, Fred Weiss.
Mais il faut qu'il y aille, évidemment. Enfin, s'il a l'opportunité, effectivement, mais parce que ça fait trop longtemps qu'il n'entraîne plus et que effectivement, ça a été certainement une déception de pas avoir l'équipe de France et qu'il se préparait à ça. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas de club, sauf que là, ça fait un moment qu'il n'entraîne plus. Il a besoin, avant de reprendre l'équipe de France, si ça arrive un jour, d'avoir un club avant. Donc, je pense que c'est hyper important.
Olivier,
ouais, je suis étonné que Zidane puisse y aller en deuxième choix derrière Nagelsmann. Ça m'étonne. Donc, je connais l'ego des bonhommes. J'attends de voir la suite, ouais. Réellement, voir si c'est réel. Et puis, en général, ce qu'on aime tous, c'est d'avoir d'autres propositions, se faire pencher la balance. Mais honnêtement, je le vois pas aller au Bayern.
Moi non plus, c'est ça en fait qui me gêne. C'est, je l'imagine la dans philosophie un club du italien, jeu, dans un club espagnol, voilà. Mais la rigueur allemande, et j'ai du mal à y croire. Quoi. Il a pas cette
Mais un club italien, allemand. Un club espagnol, ça fait deux clubs en fait, parce qu'il peut pas signer ailleurs qu'à la Juve en Italie, je pense pas. Ouais. Il peut pas signer ailleurs qu'au Real en Espagne, ça fait pas
ça,
beaucoup.
Ça limite énormément.
Il reste l'équipe de France, ça fait trois. Le PSG.
Ouais, sauf que l'équipe de France, encore une fois, je pense que ça fait trois
en Angleterre qu'on n'a pas quand même.
Ouais, bah oui, c'est ça.
En Angleterre, non, tu.
Ouais.
Je le verrais bien à Manchester City.
Ok, bon, on va arrêter les hypothèses et on en reparlera dans cette émission. Oui, voilà, l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, évidemment. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, l'incroyable imbroglio en badminton. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Je ne m'en fous pas.
Évidemment qu'on ne s'en fout pas.
Ok, c'est
rien. On s'en fout pas, les pauvres, c'est horrible.
Deux Français, deux badistes sont passés du rêve au cauchemar. Ils s'appellent Ronan Labarre et Lucas Corvée. Et ils pensaient avoir décroché leur billet pour les Jeux Olympiques, qualifiés dans le tableau du double homme du tournoi de badminton. Mais cette semaine, La Fédération internationale a publié un communiqué pour annoncer que la paire française n'était en fait pas qualifiée. La faute à une incroyable erreur de calcul de points. Ce sont deux autres Français qui leur passent devant pour seulement 29 points. Il faut savoir que ce règlement est souvent mis à jour depuis le début de la course olympique. Le classement Race to Paris, mis en place en mai 2023, est en effet faussé depuis le premier tournoi en Chine. Et d'autres joueurs internationaux ont été pénalisés, mais sans autant de conséquences que pour nos deux Français. Justement, Ronan Labarre, contacté par RMC Sport, est anéanti. On l'écoute.
Ils font une erreur avec des conséquences qui sont gravissimes pour nous. C'est hallucinant, c'est surréaliste. C'est surtout une énorme faute professionnelle de leur part. Et sortir de cette faute professionnelle avec un communiqué aussi court et aussi peu détaillé, c'est un petit peu même très décevant, très déshumanisant aussi, parce qu'ils n'imaginent pas du tout ce qu'ils nous font endurer, quoi.
Ok, votre réaction à cette histoire assez improbable, Christophe.
Comme il l'a dit, c'est des amateurs, c'est des peintres, les gens de la Fédération internationale de handball, de commettre des erreurs.
Et c'est pas le handball, mais je sais que t'as envie de mettre une cartouche au handball.
De handball. Désolé. Non, mais franchement, comment tu peux faire ça et t'en rendre compte une fois que tu viens de donner la qualification? Il était mon invité la semaine dernière dans le Mag Olympique, il était tout à sa joie, Renan, de savoir qu'il allait disputer ces Jeux Olympiques. C'était le nec plus ultra. Il s'était bagarré, il avait fait des sacrifices terribles pour partir en stage, pas voir ses enfants, pas voir sa femme.
Ascenseur émotionnel.
Et là, on lui dit, ah ben non, on s'est gouré, donc t'y vas pas finalement. Mais c'est vraiment, il mériterait d'être lynché en place publique.
Avec la Fédération de ils peuvent les rattraper ou pas? Qui tient le volant à la Fédération internationale de basket?
Je pense, enfin, je sais pas si j'étais humain, si j'étais
président. Ils veulent demander une wildcard.
Et voilà. De leur accorder une wildcard.
Ils sont passés par un avocat pour essayer d'utiliser
C'est une vraie possibilité ou c'est juste une demande parce qu'ils essaient de se rassurer
eux, ils
peu.
Le demandent. Ouais, après, demander, est-ce que la fédération va
demander, ouais, voilà, c'est ça.
Olivier, t'y crois pas?
Je crois pas. Malheureusement, et franchement, c'est une histoire. C'est juste horriblissime. Pour un sportif de haut niveau, quand t'as fait des sacrifices, comme tu disais, Christophe, et que t'es sûr d'y aller, et que tu es en train de tout organiser, ta tête elle est déjà au jeu, et tu reçois un coup de fil et on te dit ah non mais en fait c'est pas toi, c'est les autres.
On s'est gouré, c'est pas toi.
Mais ta carrière sportive bascule en
jeu de fil. Tu vas pas le voir, mais finalement tu vas pas.
Tu vas rire.
Et c'est même gênant pour ceux qui sont qualifiés à leur place, quoi, qui eux n'étaient pas du tout prévus, avaient déjà fait le deuil de leur qualification, et d'un seul coup on leur dit ah non mais c'est vous qui partez. C'est-à-dire que ce qui arrive, et je l'ai déjà vu sur des cas comme ça, c'est que ceux qui ne sont pas préparés à y aller, souvent, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, les Jeux, faut s'y préparer longtemps à l'avance. Et j'ai vu des qualifications dans des sports de combat qui sont faits au dernier moment, et ça a toujours été une catastrophe.
Bon, forcément, nous allons suivre cette histoire. Allez sur rmcsport.fr pour avoir toutes les précisions. Mais c'est important d'en dire un mot, en tout cas, et de vous la raconter, chers auditeurs, ce matin dans les grandes gueules du sport. Nous revenons dans quelques instants pour un débat sur le calendrier de la Ligue 1. La Ligue 1 est-elle faussée? Avec Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui sera notre invité pour ce débat. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.